L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Et donc, nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcapitalisme consacrée aujourd'hui à une critique de la domination adulte sexuelle, particulièrement du mouvement pro-pédophile des années 1970-1980, un sujet qui est d'actualité, puisque avec l'affaire Matzneff, Gabriel Matzneff, donc un écrivain français qui est très reconnu dans le milieu littéraire français, qui a eu un prix Renaudot en 2013, et qui pourtant a des écrits pédophiles, puisqu'il est lui-même pédophile depuis les années 70. Il y a eu récemment la parution d'un livre de Vanessa Springora, qui était victime de violences sexuelles de la part de Gabriel Matzneff dans les années 70. Donc un livre qui s'appelle Le Consentement. Et donc, à l'occasion de cette affaire, on a entendu beaucoup de choses, et notamment le fait que finalement, le problème, c'est finalement mai 68, la question de la libération sexuelle, et donc il y a une certaine droite qui s'est emparée de l'affaire Matzneff pour faire une nouvelle fois le procès de mai 68. Et en face de ça, la réaction d'une partie de la gauche, et notamment de Libération, a été de faire une espèce de mea culpa, évidemment bienvenue, mais qui ne pose pas franchement la question de comment est-ce qu'il y a eu, pourquoi est-ce qu'il y a eu un mouvement pro-pédophile dans les années 70-80, dont on fait partie notamment une partie des intellectuels et des militants des années 68. Face à ça, on voulait éviter dans cette émission un double écueil. D'une part, en rester simplement à une condamnation morale de la pédophilie sans voir qu'il s'agit d'un problème politique, d'un problème de domination, de la domination adulte et de la domination patriarcale. Et d'autre part, penser qu'il fallait aussi démêler un petit peu la complexité de la question de la sexualité des mineurs dans les années 70, en différenciant bien les pédophiles comme Matzneff, qui au final n'ont pas grand-chose à voir avec 68, puisqu'ils étaient déjà pédophiles avant 68 et que finalement ils ne sont pas particulièrement de gauche. Ensuite, les pédophiles 68ards, les pro-pédophiles 68ards comme Guy Hockenheim, qui n'étaient pas forcément tous de gauche, puisque par exemple Alain de Benoist a aussi défendu des positions pro-pédophiles dans les années 70, alors que lui, il fait plutôt partie de la nouvelle droite, de l'extrême droite. Également, différencier ces pro-pédophiles 68ards de gens qui ont signé des pétitions contre la répression de la pédophilie, soit parce qu'ils partageaient certaines des positions, mais pas toutes, du mouvement pro-pédophile des années 70, comme par exemple Foucault, soit plutôt dans une logique anti-répression qui était assez générale à l'époque. Et puis, et ça je pense que ce serait là où je pense qu'on ne peut pas jeter tout 68, c'est qu'il y a également des gens dans les années 68 qui ont critiqué l'ordre sexuel bourgeois de manière générale, tout en critiquant la pédophilie. Donc c'est le cas par exemple de Françoise Dolto, qui a critiqué la pédophilie et qui apprenait le maintien d'une majorité sexuelle, même si elle était légèrement abaissée. C'est également le cas des auteurs, de deux militants homosexuels qui ont écrit « L'enfant et le pédéraste » en 1980, qui critiquent la pédophilie comme une forme de domination adulte particulièrement violente. Et c'est également le cas d'une militante féministe, Leila Sebar, qui a écrit « Le pédophile et la maman », une critique très forte de la pédophilie, tout en défendant des positions de libération sexuelle des mineurs, et notamment un âge de majorité sexuelle à 13 ans. Donc ce qu'on peut voir à travers tout cet écheveau de positions qui s'étale sur toute la période, c'est qu'on part de critiques légitimes, d'une part par le FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire en 71, de l'inégalité de la majorité sexuelle entre homo et hétéro, puisque les hétéros, la majorité sexuelle était à 15 ans et pour les homos à 21 ans. Et puis, il y a également des critiques légitimes à l'intérieur du FAR de la part des mineurs de 15-21 ans qui entendaient lutter contre la répression sexuelle par les institutions bourgeoises, la famille, l'État, l'école, etc. Mais le problème, c'est qu'on part de ces critiques-là au début des années 70 qui sont légitimes et on va aller au fur et à mesure des années 70 vers des positions beaucoup plus critiquables, c'est-à-dire une mise en cause de l'idée même de majorité sexuelle au nom d'une conception libérale de la sexualité consentie qui fait abstraction des rapports de pouvoir. Et d'autre part, il va y avoir la revendication de libération sexuelle qui au début a été portée par des mineurs du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire va être portée par des adultes, c'est-à-dire des dominants dans les rapports d'âge qui vont revendiquer un accès au corps des moins de 15 ans sous prétexte de consentement et de libération sexuelle. Donc on va parler de toutes ces questions donc avec Tal, et non plus Delphine, Peterborough-Merx, qui effectue sa thèse sur cette question, notamment à l'ENS Lyon et au CRESPA. Et on avait déjà fait avec elle une émission sur la domination adulte de manière plus générale, auquel on invite les auditrices et les auditeurs à se reporter.
Oui, je trouve ça intéressant, en fait, le fait que tu aies dit qu'il y a deux écueils, un premier écueil qui serait un écueil plutôt émanant de la droite et qui consisterait à critiquer mai 68, à critiquer la libération sexuelle en dénonçant des dérives, et une autre ligne qui serait une ligne plutôt de contrition, en tout cas de regret, et qui consisterait à dire que finalement on est allé trop loin. Et en fait, moi j'en vois un troisième écueil qui, pour moi, mérite d'être discuté, c'est la phrase c'était une autre époque. Ça s'est passé avant, il y avait d'autres conditions de réflexion, notamment autour de la sexualité. Et en fait, on serait incapable aujourd'hui de porter un regard sur ces années-là qui serait pas un regard en fait qui déformerait ce qui s'est produit. Pierre Verdrager, qui a écrit un livre qui s'appelle L'enfant interdit, où il fait un travail d'analyse assez intéressant. Des stratégies mises en place par les pédophiles politiques pour essayer de construire un discours qui participe d'une politisation du sujet. C'est ça qui est important pour moi, c'est qu'en fait, ces personnes qui, dans les années 70, je ne sais pas si mai 68 est l'élément le plus important, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs personnes qui ont mis en avant le fait que mai 68 a parfois laissé de côté certains enjeux, notamment la question de l'homosexualité et du féminisme n'était pas centrale alors qu'elle l'est devenue plus tard. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui nous intéressent ici sont des personnes qui sont des militants, parfois des militantes, mais en majorité des militants, qui s'inscrivent dans des luttes, donc parfois dans des luttes homosexuelles, parfois dans des luttes anti-autoritaires, et qui vont non pas faire de leur propre pédophilie, ou en tout cas donc de leur propre rapport sexuel potentiel avec des enfants, une appétence personnelle, mais au contraire, qui vont considérer que c'est dans une démarche politique, dans une démarche de critique de certaines institutions, et c'est de là dont on doit partir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est, par exemple, Pierre Verdrager, dans l'introduction et dans la première partie de son livre, dit ça, il dit, en tant que sociologue, dans ma démarche de chercheur, il ne s'agit pas pour moi de juger de ce qui s'est produit, il s'agit d'essayer de reconstituer un petit peu le champ politique de l'époque pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est effectivement ma perspective, celle que j'adopte pour lire ces années-là, c'est celle de l'occultation en fait de cette domination adulte, ou en tout cas celle d'une mécompréhension de la domination adulte. Ce qui est paradoxal, c'est que on parle d'une époque, c'était une époque passée, etc., sans comprendre qu'en fait il y avait différentes mouvances à cette époque-là, qu'en fait il n'y avait pas évidemment pas dans la société des années 70-80, une acceptation donc d'attitude donc pédophile, on dirait pédocriminel, pour mettre en valeur le fait que c'est des comportements qui sont réprimés légalement. Mais en tout cas, il y avait d'autres courants de politiques qui ont pu s'y opposer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait, quand on lit des travaux d'historiens sur cette période, on se rend compte que finalement, même si ces personnes, ces personnalités qui viennent du monde littéraire comme Matzneff, etc., étaient réprouvées dans la société comme étant en fait des déviants, personnes qui appartenaient à une élite potentiellement pervertie, on a l'impression que il existe une forme de silence du côté, notamment, moi c'est ce qui m'intéresse, du champ des féministes et des féministes lesbiennes, comme si il y avait cette, dans l'extrême gauche cette parole qui avait émergé et qui politisait les enjeux de pédophilie. Et qu'en fait, il avait fallu attendre une décennie, voire deux décennies plus tard, pour qu'on perçoive clairement des propos, notamment de féministes qui condamnent ça. Donc pour moi, c'est pas que c'était une époque, c'était pas une époque, il y avait différents acteurs à une époque, il y en a dont la parole a été très audible, et cette parole est maintenant condamnée, mais c'est pas anodin aussi que le livre de Vanessa Springora, qui donc relate en fait la violence qu'elle a subie de la part de Matzneff à cette époque, soit publié si tard. Moi, la manière dont je le comprends, c'est qu'en fait, le propre de la domination adulte, c'est le fait... Donc, il y a un pouvoir spécifique, et je pense qu'il faut le considérer de manière matérialiste, mais il y a un pouvoir économique, symbolique, social des adultes sur les enfants. Et finalement, ce qui est... J'en avais parlé lors de la dernière émission, mais ce qui est très spécifique à ce type de domination, c'est qu'il y a une structure d'inversion, c'est-à-dire que l'enfant va devenir adulte, nécessairement. Et en fait... C'est comme si, enfin, c'est l'impression en tout cas que cette affaire me donne, c'est comme si, en fait, il fallait que l'enfant acquiert son statut d'adulte, qu'il aille au bout de cette trajectoire pour que sa parole soit audible. Comme si donc la parole des enfants, la parole des enfants victimes avait été complètement occultée pendant toutes ces années et qu'il avait fallu en fait qu'ils grandissent, qu'ils aient aussi une lecture de ce qui leur était arrivé et qu'ils politisent ce qui leur était arrivé pour que on en entende parler aujourd'hui. Et voilà, ça pour moi, c'est exactement ce qu'est la domination adulte, quoi, cette trajectoire spécifique.
Oui, c'est important que tu reviennes un peu sur l'argument du contexte, parce que d'un côté, on peut se dire que effectivement, ce contexte, il a posé des nouvelles questions qu'auparavant, qui ne se posaient pas en termes de libération sexuelle, de sexualité des mineurs, des questions qui ont été soulevées de manière légitime par la vague effectivement qui est postérieure à 68 et qui en réalité commence plutôt en 1970-1971 avec la fondation du MLF, avec le Front homosexuel d'action révolutionnaire qui est créé en 71. Donc ce sont de nouvelles questions qui sont légitimes, qui parfois sont soulevées par les premiers concernés, c'est-à-dire qu'au début ce sont les mineurs en fait qui revendiquent une sexualité autonome vis-à-vis des parents, des institutions, etc., etc. Mais là où l'argument du contexte, effectivement, ne tient pas, c'est que la domination adulte, et notamment la domination adulte sexuelle, elle est vieille, elle est ancienne. Et cette domination adulte, ce qu'on peut avoir l'impression, c'est qu'elle s'est, dans les années 70, parée d'une sorte de légitimité politique en se faisant passer pour la libération sexuelle elle-même. Et ce qui fait que, d'une certaine manière, il y a eu une sorte d'instrumentalisation de la part de pédophiles, c'est-à-dire en fait d'adultes qui veulent avoir des rapports sexuels avec des enfants, sous prétexte que ces enfants seraient consentants, mais comme disait très bien Fassin en critiquant Foucault sur la question du consentement, Foucault oublie que l'alternative entre la violence et le consentement fait ici l'économie d'un troisième terme qui ne se confond ni avec l'un ni avec l'autre, le pouvoir. C'est-à-dire que un des problèmes voilà, de l'analyse de l'extrême gauche des années 70, c'est finalement d'avoir une conception très libérale du consentement où il suffit de dire oui entre guillemets pour que ce soit consenti, sans voir que, en fait, comme on l'a dit dans l'autre émission, les enfants n'ont pas du tout la même compréhension de la sexualité que les adultes, et ce n'est pas forcément parce qu'ils ne refusent pas, comme ça a été dit à l'époque, que pour autant ils sont consentants, puisqu'il leur manque les conditions matérielles de pouvoir consentir, c'est-à-dire d'une part le fait d'avoir la même compréhension de la sexualité que les adultes, on sait que c'est pas le cas, et deuxièmement le fait que le rapport de force complètement en leur défaveur, et donc c'est extrêmement difficile pour eux de refuser. Et donc ce qu'on peut dire sur la question du contexte, c'est que deux questions légitimes, souvent promues par les personnes concernées elles-mêmes, en fait, on est passé à une instrumentalisation complète du discours sur la libération sexuelle au profit d'individus souhaitant légitimer politiquement leur domination sexuelle sur des mineurs.
Oui, en fait, je ne sais pas si c'est un passage, et si ce n'est pas plutôt une coexistence, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a à la fois des discours émanant de mineurs, notamment, c'est constitué au sein du FAR, le Front de Libération de la Jeunesse, qui adopte des slogans tels que « les mineurs ont envie de se faire baiser ». Et donc, il y a effectivement une prise de position de certains mineurs par rapport en fait à la répression qui est exercée vis-à-vis de leur sexualité, et en fait le fait qu'ils n'ont pas le choix des partenaires, et encore moins le choix des partenaires lorsqu'ils sont homosexuels. Et en même temps coexistent effectivement des discours qui proviennent de personnalités. T'as raison de dire que c'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui émanent plutôt de l'extrême gauche, il y a aussi des personnes qui sont plutôt classées à droite. Matzneff n'est pas réellement classable à l'extrême gauche du tout, en fait. C'est quelqu'un qui prend pas position directement politiquement, qui avait des accointances avec Alain de Benoist. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a différents discours qui vont coexister à ce moment-là. S'il y a revendication des mineurs, c'est de mineurs qui sont quand même relativement âgés, enfin, des adolescents entre 15 et 17 ans. On n'a pas du tout trace d'enfants qui auraient produit des brochures demandant à obtenir des rapports sexuels avec des adultes.
Oui, c'est important
à
préciser.
Quand même, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose, en fait. Je veux dire, des personnes comme Scherer ou Nkangem vont vraiment érotiser le corps de très jeunes enfants en mettant en valeur le fait que le corps prépubère serait un corps qui serait, en fait, qui permettrait une ouverture à une sexualité, notamment extra-génitale. En tout cas, moi, il me semble que ce n'est pas forcément une instrumentalisation. Il y a deux éléments qui coexistent et qui sont surprenants. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est vrai que des personnes comme notamment Nkangem et Scherer sont des personnes qui vont politiser fortement la question de la domination adulte. Et donc, ça se pratique, comme tu le décrivais, à travers notamment des attaques contre la famille, l'institution scolaire, mais aussi contre l'ordre hétérosexuel, en fait. Et donc, ils vont notamment s'insurger contre l'appropriation, et là, il me semble qu'il y a un discours très antiféministe, mais l'appropriation des mères, donc ça c'est surtout Tony Duvert qui produit ce discours en accusant la famille d'être pédophobe et en attaquant spécifiquement la maternité qui serait un kidnapping, donc avec des enjeux autour de, en fait, qui a accès aux enfants et qui peut posséder ses enfants. Donc là, il me semble qu'on n'est même plus dans une perspective de domination adulte, mais on est dans une perspective de lutte pour un objet désiré. Mais en tout cas, il y a quand même des discours qui critiquent fortement l'autorité, notamment des parents et l'autorité scolaire, et qui, par contre, par un étrange tour de passe-passe, semblent complètement incapables de percevoir leur propre position au sein de ce rapport de pouvoir. Il y a quelque chose de très intéressant qui avait été souligné par Lapouge et Pinard Legris, donc les deux personnes qui ont écrit « L'enfant et le pédéraste », c'est qu'en fait, le fait même de prôner des relations sexuelles avec des enfants ne peut en fait mener à retravailler ces catégories. À se dire, voilà, les catégories adultes-enfants sont des catégories qui posent problème, sont des catégories de pouvoir, et on aimerait essayer d'aller vers une forme de dépassement. C'est pas du tout ce qui est prôné, puisque, en fait, il s'agit bien de maintenir les deux termes adultes-enfants et de proposer une autre configuration entre eux. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'effectivement, c'est des paroles qui en fait, sont énoncées et qui demandent la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec des enfants sont des paroles d'adultes. C'est-à-dire comme si finalement les enfants seraient incapables eux-mêmes de proposer ça. Et ça, dans le cadre d'un rapport de domination, c'est-à-dire que si on pense qu'il y a un rapport des adultes aux enfants, il semble impossible en fait de se montrer à l'écoute de la seule position des adultes qui possèdent là, dans ce cadre-là, le rôle des dominants.
Tu as raison effectivement de préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'une instrumentalisation. Puisque, effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas pédophiles avant la vague des années 70 et qui le sont devenus ou qui sont devenus pro-pédophiles, parce que finalement, auparavant et encore aujourd'hui, la pédophilie est avant tout vue comme un problème moral. Et donc, le fait que 68 a levé le tabou moral sur la pédophilie dans ces milieux-là a fait que en tant qu'adulte, donc en tant que dominant, il n'avait plus de frein moral à exercer une domination sexuelle sur des enfants. Et le problème, en fait, c'est que, évidemment, qu'on peut chercher voilà, à dépasser cette dimension morale, mais le problème, c'est qu'on a oublié que si on pouvait effectivement considérer que le problème n'était pas avant tout moral, il y avait également une question politique qui, elle, a été complètement oubliée. Et cette question politique, tu le dis très bien, c'est la question de la domination adulte et du fait que tous les gens qui produisaient ces discours pédophiles et pro-pédophiles, et parfois ces actes, eh bien, c'était des adultes, donc des dominants. Et d'une certaine manière, d'un côté, ils proclamaient une espèce d'abolition de la séparation adulte-enfant, de la séparation, sexuelle, mais d'un autre côté, ils reconduisaient le rapport de pouvoir fondé sur la domination adulte et finalement... même quand il parlait de voilà, la spécificité de la sexualité infantile qui serait pas génitale et tout, projetaient avant tout leur propre fantasme d'adulte. Et comme tu le dis bien, finalement, certes, effectivement, les mineurs du phare de 15-17 ans réclamaient une sexualité pour eux, mais ce n'était pas le cas des enfants. D'ailleurs, un des grands problèmes de la pensée d'extrême-gauche de cette époque, c'est le fait d'avoir homogénéisé les mineurs comme s'il s'agissait d'une catégorie purement artificielle et légale, sans voir que, effectivement, si on peut considérer que les mineurs de 15-17 ans peuvent être considérés comme des adultes d'un point de vue sexuel, c'est pas du tout le cas, par exemple, voilà, de tous les mineurs prépubères. Donc, tu as effectivement voilà, raison de pointer le fait que toutes ces questions-là n'ont pas vraiment été pensées, à part dans le livre qu'on a cité, donc « L'enfant et le pédéraste » en 1980, et puis un autre ouvrage d'une féministe, mais effectivement, ces questions-là, même parmi les féministes matérialistes, n'ont pas été pensées à l'époque. Et Christine Delphi, qui a été une des premières féministes à vraiment réfléchir sur la question de la domination adulte, ne l'a fait que bien plus tard.
Leur démarche donne l'impression que finalement il y a une compréhension, une intuition de l'existence d'une domination des adultes sur les enfants, mais c'est comme si cette domination elle était restreinte à la sphère familiale et à l'institution scolaire, en fait, qu'il y avait une mise en opposition des deux termes parent-enfant ou maître-élève, mais que par contre des personnes comme Scherer ou Ankangem ne vont pas avoir de compréhension plus globale de cette domination qui inclut en fait les adultes comme terme dominant. Et c'est vrai que c'est important de revenir sur question des limites aussi données à ce qu'on appelle aujourd'hui la pédocriminalité, mais c'est-à-dire quand on parle d'enfants, de quoi on parle. Et en fait, effectivement, on a bien distingué les revendications de certains adolescents, adolescentes et des paroles inaudibles d'enfants. En fait, il s'avère que certaines personnes, comme notamment René Scherer, vont vraiment se fonder sur des arguments en fait, biologisants pour justifier ou pas la possibilité d'une sexualité adulte-enfant. Donc, par exemple, il y a eu énormément de débats autour de la puberté. C'est-à-dire, en fait, est-ce que finalement la puberté devrait être un critère pour que les adultes aient une sexualité avec des enfants ? Et le Freud a une importance énorme chez ses auteurs, donc c'est un Freud matiné de marxisme, donc avec la lecture d'auteurs comme Wilhelm Reich, qui a écrit... un livre qui s'appelle La lutte sexuelle des jeunes, qui a été traduit en 1972 aux éditions Maspero, et avec cette idée que finalement, effectivement, les enfants ont une sexualité, cette sexualité est réprimée. Et en fait, la question, c'est du coup, est-ce que l'enfant permet d'accéder à d'autres régimes de sexualité qu'un régime hétérosexuel génital? Et ce que fait Scherer, notamment, c'est qu'il critique la période de latence. Donc, ce que Freud a appelé la période de latence, ça serait une période d'environ 8 à 12 ans dans laquelle l'enfant n'a plus de sexualité, alors qu'avant, donc il y a une sexualité anale, une sexualité orale, etc. Mais moi, ce qui me semble surtout intéressant, c'est la question effectivement de la perspective, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces personnes qui prônent une pédophilie politique ne se perçoivent pas eux-mêmes comme des adultes et comme des dominants, en tout cas, comme des adultes qui exercent une domination. Et un terme qui est complètement absent de débat, c'est la question de la violence. C'est-à-dire que s'il y a effectivement des attaques fortes de la part de personnes comme Tony Duvert vis-à-vis de la famille, avec cette idée que, en fait, au sein de l'institution familiale se produit un nombre très important de violences, et notamment de violences sexuelles, donc avec une critique forte de l'inceste, tout donne l'impression que la manière dont les pédophiles politiques se perçoivent est dépourvue de cette dimension de violence. C'est-à-dire comme si ce que eux exerçaient vis-à-vis des enfants ne serait plus violent puisque les enfants pourraient consentir. Et c'est vraiment, je veux dire, une des lignes de défense de Matzneff, quoi, dans ses livres, de dire mais en fait, finalement, j'ai jamais exercé aucune violence physique et les enfants ont toujours consenti, quoi. Un des exemples qui est frappant parce qu'il est choquant, en fait, dans le numéro 22 de la revue Recherche, qui était une revue coordonnée par différents intellectuels à l'époque. Donc, c'est un numéro qui s'appelle Co-Iré et qui a été écrit par Scherer et Okangem. Il y a tout un développement autour de la figure du rapt, donc de l'enlèvement, quoi. Et en fait, l'idée développée par les deux auteurs, ça serait que pour que l'enfant parvienne à se détacher, en fait, d'un ordre hétérosexuel et familial négatif, il faudrait l'enlever avec tout un ensemble de paragraphes qui évoquent notamment Gilles de Rais, une figure historique qui aurait torturé et violé des centaines d'enfants. Et en fait, c'est particulièrement choquant quand on lit ça avec en tête, en fait, cette domination des adultes sur les enfants, parce qu'en fait, les auteurs parlent de violences exercées envers les enfants qui sont énormes, mais ce qui est mis en avant, c'est la subversion d'un ordre hétérosexuel et pas la place des enfants. Et je trouve que ce qui permet un petit peu de ressaisir ça, c'est effectivement quand des paroles de victimes émergent. Et en fait, c'est vrai que les critiques des féministes ont eu lieu tard, non pas vis-à-vis des violences sexuelles, parce qu'en fait, la question des violences sexuelles commençait complètement à être politisée à ce moment-là, mais les critiques émergent peu vis-à-vis de la violence sexuelle spécifiquement dès lors qu'elle touche aux enfants. Donc l'inceste, mais aussi les attitudes pédophiles. Et par contre, l'enfant et le pédéraste s'ouvrent vraiment sur une introduction qui positionne les deux auteurs, un des deux auteurs, si je me souviens bien, en tant que victime, qui rappelle une scène d'abus sexuel quand il était enfant, et il explique qu'en fait c'est ça qui l'amène à développer ce type de discours, quoi. Et donc j'ai l'impression que effectivement ce qui est le grand absent des discours, c'est peut-être la dimension de la violence, effectivement, dès lors qu'elle est comprise différemment de la violence physique, quoi. Et donc, c'est ce que dit Fassin dans son article dont tu parlais sur la somnolence de Foucault, la violence exercée en tant que résultant du pouvoir, quoi.
Oui, bien sûr. Effectivement, il y a une vision finalement de la violence extrêmement sommaire et naïve dans tous les textes de cette période, puisque finalement, seule la violence physique est prise en compte et pas du tout la violence morale, psychique, qui, on sait aujourd'hui, joue un rôle majeur dans les violences sexuelle, puisque la définition d'ailleurs légale du viol n'implique pas forcément une violence physique, ça peut être simplement la surprise, des pressions morales et psychiques. Là-dessus, on renvoie vraiment à nos deux émissions sur la domination sexuelle masculine et la culture du viol. Après, peut-être pour éclairer un peu les enjeux qu'on vient de donner, Je vais me permettre, même si on connaît les limites des analogies, mais quelques analogies, pour essayer de montrer en quoi est-ce que les positions des années 70 sur ces questions, les positions pro-pédophiles, même si elles ne sont pas directement pédophiles, font problème. Premièrement, tu as évoqué le fait qu'il y a une dénonciation, effectivement, de la domination adulte, mais cette dénonciation, elle est tronquée, puisque les auteurs de ces articles, etc., s'exemptent eux-mêmes du rapport de la domination adulte. Et là-dessus, on peut faire une analogie avec toutes les analyses en termes de domination de classe faites par des intellectuels de classe moyenne qui exemptaient les classes moyennes intellectuelles qui pourtant sont quand même vachement mieux loties dans la société capitaliste que les ouvriers, s'exemptaient donc de ce rapport de classe et se posaient simplement comme des agents neutres, une intelligentsia au service du prolétariat, etc. Et aujourd'hui, cette vision commence à être remise en cause dans le marxisme, notamment un ouvrage récent qui s'appelle « Ménage à trois sur la lutte de classe » aux éditions Asymétrie. Deuxième analogie, sur la question finalement de la vision de la sexualité des enfants par des gens comme René Scherrer, il y a une sorte de réification exotisante qui s'instaure dans le cadre d'un rapport de domination. Et c'est pas sans rappeler certains écrits problématiques du Phare sur la question de la sexualité avec des hommes arabes, pour reprendre le thème d'un ouvrage de Todd Shepard, où Todd Shepard montrait à quel point est-ce que il y avait tout un tas de fantasmes de la part de membres du Phare sur les hommes arabes qui auraient un autre rapport au corps, à la sexualité, parce que ils viennent pas de la civilisation judéo-chrétienne, etc. Et on tombait vraiment dans une forme de réification exotisante qui reproduisait finalement les rapports de domination coloniaux. Et on voit bien à quel point est-ce que finalement, c'est pas parce qu'on a une vision positive de quelque chose que ça réinstaure pas un système de domination, comme dans le cas du sexisme bienveillant, dans le cas des hommes arabes, s'agissait d'une forme de racisme bienveillant. Et dans le cas de la sexualité polymorphe des enfants, il y avait bien la réinstauration d'un rapport de domination et de adult gaze, on pourrait dire, le regard adulte, et qui est évidemment une question complètement différente que la question de la sexualité entre enfants. On précise bien que ce n'est pas l'objet de cette émission, même si évidemment, il ne faut pas non plus avoir une vision naïve de la sexualité non génitale telle qu'elle peut se faire entre enfants, puisqu'il y a aussi des rapports de pouvoir, des rapports de genre, etc. etc. Donc, il ne faut pas non plus avoir une vision idéalisée de l'enfance, encore une fois. Et puis dernière analogie, c'est la question du rapt, qui rappelle un peu l'imaginaire qui subsiste jusqu'à aujourd'hui de l'enlèvement des femmes arabes par des hommes blancs pour les libérer de leur patriarcat sauvage et indigène, alors même que il s'agit simplement de passer d'une domination à l'autre, tout comme dans le cas des enfants qui seraient enlevés à la domination familiale au profit d'une domination adulte tout aussi brutale.
Il y a deux éléments. Il y a effectivement le fait que on peut faire des analogies qui sont éclairantes, mais on peut aussi se dire que les personnes qui prônent une pédophilie politique manquent complètement une analyse intersectionnelle. C'est-à-dire que non seulement ces personnes prônaient la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, mais il y avait aussi certains auteurs, comme Matt Sneff par exemple, qui exprimaient publiquement le fait qu'ils avaient des rapports sexuels tarifés avec des jeunes garçons aux Philippines, donc à Manille par exemple pour Matt Sneff. Et dans le numéro 37 de la revue Recherche, qui est le numéro qui s'appelle « Fou d'enfance, qui a peur des pédophiles », il y a aussi un témoignage d'un homme qui raconte le fait que l'accès au corps des petits garçons noirs à Abidjan est beaucoup plus facile, que les garçons sont beaucoup plus sont moins peu heureux, etc. Donc il y a une dimension de race qui est très présente en fait dans les textes de ces auteurs et qui est pas du tout analysée par eux-mêmes. Il y a aussi une dimension de genre en fait qui est très très peu exposée. Et en fait, une des questions qu'il faudrait peut-être se poser, c'est dans quelle mesure ces personnes n'ont pas soulevé ces questions parce qu'elles se vivaient elles-mêmes comme opprimées. C'est-à-dire qu'une des lignes de défense, ça a été de dire, de la même manière, donc ça c'est en fait pour le coup les pédophiles politiques qui eux-mêmes traçaient ces analogies, de la même manière que les homosexuels, en raison de leur sexualité déviante, subissent une répression du pouvoir en place et de l'ordre hétérosexuel, de la même manière, les pédophiles qui ont une sexualité déviante subissent une répression. Comme si finalement, effectivement, il y avait une comparaison possible dont la ligne en fait était celle d'une sexualité hors norme. Quoi. Et Pierre Verdrager parle aussi de comparaisons stratégiques qui ont été effectuées, notamment avec la persécution des juifs, par exemple. Certains pédophiles qui disaient ce que je subis, c'est de l'ordre de persécution de minorités, donc ce qu'ont pu subir les juifs, par exemple, sous Pétain. Et en fait, je me demande si le fait que ces personnes ne se placent pas comme en marge du pouvoir participe pas de leur difficulté, en fait, de leur incapacité lire d'autres rapports de pouvoir. Ce sont des hommes blancs, qui ont des rapports sexuels avec des enfants, et des enfants parfois racisés, et avec des petites filles également.
Oui, ça c'est un problème d'ailleurs assez classique dans l'extrême gauche, le fait de, parce qu'on occupe une position dominée sur le plan de la classe, que ça absout de toute autre forme de rapport où là les personnes très dominante. Donc voilà, c'est évidemment un argument classique, d'ailleurs, dans cette période, dans les années 70, pour dire que les questions, finalement, de viol ou de sexisme ne sont pas si importantes que ça, puisque la question principale, c'est la lutte de classe. Et d'autre part, en tant que militant révolutionnaire ou ouvrier, bien, je suis indominé, donc ma parole n'est pas à remettre en cause.
Et puis ça pose la question aussi de pour qui ces personnes sont-ils, enfin, en fait, ou bien ils comprennent leur lutte comme une manière de lutter pour eux-mêmes et pour l'accès à une sexualité à laquelle ils aspirent, ou bien, et c'est en fait beaucoup l'argument qui a été proposé, ou bien ils luttent au nom des enfants, comme si finalement les enfants avaient besoin d'eux pour avoir un porte-parole. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de mal à avoir en fait des témoignages d'enfants. C'est-à-dire que les témoignages qu'on va avoir, comme celui de Vanessa Springora, c'est des témoignages de personnes qui sont devenues adultes, quoi. Pour faire une autre analogie, c'est comme si des militants, militantes véganes se plaçaient dans la position de dominer dès lors qu'ils et elles luttaient au nom d'animaux qui seraient incapables d'être eux-mêmes les acteurs de leur propre lutte. Et ben, dans ce cas-là, il y a une inversion des termes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prétendre porte-parole et en même temps se considérer comme la personne qui subit en fait la domination, quoi.
Oui, oui, tu as raison effectivement de dire que d'une certaine manière, en fait, le mouvement pro-pédophile a reproduit une bonne partie des travers de l'extrême gauche de cette époque, c'est-à-dire à partir d'un champ où ils étaient dominés, se proclamer comme les dominés par excellence et donc les porte-parole de toutes les luttes contre la société bourgeoise, parce que finalement, sous prétexte voilà, de relier des problèmes qui effectivement en partie sont liés, la question de la domination adulte avec la domination de classe, avec la domination patriarcale, etc., on a nié l'autonomie relative de ces différents rapports de domination, et donc l'autonomie que devaient avoir les mouvements de libération dédominés par eux-mêmes. Un petit peu comme voilà, les Blancs qui prétendaient régir la lutte des Noirs aux États-Unis dans les années 50-60, comme les hommes qui prétendaient diriger le mouvement féministe jusqu'aux années 60, etc. etc. Et effectivement, comme tu le dis bien, il y a encore et toujours le problème de la parole, en l'occurrence des dominés, c'est-à-dire des mineurs, et surtout bon, voilà, des mineurs qui n'ont pas 15-17 ans et qui sont politisés au phare.
Oui, et puis c'est toujours la même question de qui libère-t-on quand on se prétend libérateur d'une autre classe d'être. C'est de la même manière, effectivement, que certains hommes blancs se prétendent libérateurs de femmes racisées. Comment est-ce qu'on peut ne pas percevoir la limite de libérer des enfants dès lors qu'on est adulte? Et en fait, ça peut rejoindre aussi les critiques de certaines féministes vis-à-vis de l'idée de libération sexuelle. C'est-à-dire que, en fait, cette critique contre l'idée de libération sexuelle a surgi très tôt et de la part de certaines féministes. C'est-à-dire que dans le Torchon Brûle, qui est le journal du MLF, il y a, en fait, dès le premier numéro, une critique qui passe par la mise en scène d'un petit récit de science-fiction des travers de la libération sexuelle pour les femmes, dès lors, en fait, que cette libération sexuelle revient à devenir en fait des objets disponibles pour les hommes. Mais de la même manière, dans quelle mesure la libération sexuelle profite aux enfants si c'est pour qu'ils deviennent des objets appropriés non plus uniquement par les parents, mais également par certains hommes pédophiles, quoi.
Oui, d'ailleurs, on pourrait dire que d'une certaine manière, la libération sexuelle devrait inclure aussi la liberté de ne pas avoir de relations sexuelles. C'est une des revendications notamment du mouvement asexuel aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, là où on voit que la conception de la libération sexuelle des années 70, elle est viciée, c'est qu'elle ne comprenait pas aussi cette possibilité. Et donc, elle se transformait finalement en une injonction pour les dominés d'avoir des rapports sexuels avec les dominants. Donc, qu'il s'agisse des mineurs pour avoir des rapports sexuels avec les adultes ou des femmes pour avoir des rapports sexuels avec les hommes. Et donc, finalement, une reconduction des carcans de la domination sexuelle androcentrée et génitale.
Oui, c'est vrai qu'en fait, les stratégies qui ont été en partie déployées par les personnes du FARS et les slogans qu'on peut ensuite écouter encore aujourd'hui, c'est des slogans qui mettent au centre la sexualité, non pas que, non pas pour réduire en fait les luttes homosexuelles au simple enjeu de la sexualité, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un effort de la part de la plupart des militants, militantes du phare, pour vraiment critiquer de manière plus générale un ordre capitaliste, une structuration de la société et donc effectivement par ailleurs également un ordre sexuel, mais en tout cas les éléments étaient pensés comme intriqués, il n'y avait pas une manière d'isoler les luttes. Mais par contre c'est vrai que les stratégies employées étaient souvent celles de l'hypersexualisation, c'est-à-dire que les slogans de manière provocatrice allaient revendiquer le droit à se faire enculer, donc ils posaient, c'est ce qu'on disait par exemple le problème nous aussi on s'est fait enculer par des arabes, donc ça posait le problème de effectivement de l'intrication avec d'autres rapports de pouvoir et d'autres acteurs. Mais il me semble qu'on peut aussi se demander dans quelle mesure cette stratégie ne pose pas problème, parce que c'est ce que tu dis de la part de personnes qui luttent dans un cadre asexuel, qu'est-ce qu'on fait en fait de cette injonction à la sexualisation des corps? Dans le cas des enfants, ça pose problème parce que la revendication n'émane pas d'eux, mais de manière plus générale, dans les luttes LGBT, une question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut lutter en revendiquant en fait un autre type de sexualité sans qu'il y ait en fait un rappel permanent à l'acte sexuel qui peut être aussi dans une certaine mesure épuisant, quoi. Parce que en fait la sexualité est aussi un ordre de violence, un ordre de pouvoir et une injonction sociale, quoi.
Oui, et je pense que c'est important justement de revenir sur la question un petit peu de la question de la morale, parce que finalement le phare, ce à quoi il s'attaquait, c'était finalement la morale bourgeoise. Et finalement, en concevant la libération sexuelle comme un combat contre la morale, d'une part, ça conduisait à de nouvelles normes, c'est-à-dire notamment la norme de « il faut avoir une sexualité active, il faut dire oui », qui du coup reconduit des rapports de domination et de violence préexistants. Et puis, ça conduit aussi à faire du renversement de l'ordre moral une fin en soi. Enfin, là, je vais évoquer un autre problème qui a été que certains milieux d'extrême gauche pro-pédophiles ont été également négationnistes par un raisonnement qui était que remettre en cause l'ordre moral et notamment le tabou de la mort, le tabou de la sexualité avec les enfants, etc., était une fin en soi, et que ça ne reproduisait pas en fait des problèmes politiques, c'est-à-dire d'une part l'antisémitisme et d'autre part la domination adulte. Donc par exemple, Serge Quadrupani, dans un texte qui s'appelait « Amis pédophiles, bonjour », publié dans La Banquise numéro 2 en 1983, défendait la pédophilie en ces termes: « Si la pédophilie est la plupart du temps misérable, il en est de même de tous les rapports, sexuels et amoureux. Il n'est pas nécessaire d'être un révolutionnaire pour voir que le supplément de misère de la pédophilie est le fruit de sa répression sociale. Un pédagogue libéral américain n'explique pas que le principal traumatisme que subit l'enfant victime d'un satyre provient de ses parents qui en font tout un plat, alors que lui, s'il n'y a pas eu violence, aurait plutôt tendance à s'en foutre. » Donc là, ça pose évidemment la question aussi du traumatisme sur lequel on va revenir. Et surtout, le passage le plus intéressant, c'est le texte fondateur de la revue La Banquise, le numéro 1, toujours en 83, cette fois-ci signé par Serge Quadrupani et Gilles Dauvé. Je cite: « De nos jours, les intellectuels ont pris conscience du pur caractère historique de tabou qui passait jusqu'alors pour naturel. Mais c'est une conscience purement intellectuelle, totalement séparée de leur propre vie. On verra telle preuve d'université dans le vent réagir avec la même hystérie qu'une prolétaire si quelqu'un s'avise de jouer à touche-pipi avec son enfant. Pour l'intellectuel comme pour tous les autres, l'une des raisons qui font des camps une horreur plus horrible, c'est qu'ils ont bousculé un certain nombre de tabous occidentaux, la mort et les cadavres, les enfants, la nudité des corps et les fantasmes sado-sexuels. » Voilà un texte qui montre bien comment est-ce que la remise en cause de la moralité, de la morale dominante, que ce soit la réprobation de la Shoah ou la réprobation de la pédophilie, de faire cette posture de critique de cet ordre moral une fin en soi et quelque chose d'intrinsèquement émancipateur, voilà, à quel point est-ce que ça pose problème.
Oui, bah, de toute façon, cet argument de la morale est un argument qui revient également très fréquemment, par exemple, vis-à-vis de certaines féministes, de dire le cœur du problème, c'est que, en fait, vous êtes des féministes bourgeoises qui est incapable d'envisager une autre pratique de la sexualité. Or, il me semble que, en fait, attaquer sur le problème de la morale n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on se place sur un terrain du politique. Ce qui peut être attaqué, c'est certaines normes intriquées à des rapports de pouvoir, c'est-à-dire comment certaines normes produisent en fait des rapports de domination et comment est-ce que du coup le changement de ces normes est souhaitable, mais aucunement le fait d'aller contre une morale en soi. Et de toute façon, cet argument de la morale est souvent utilisé pour discréditer une parole politique, c'est-à-dire qu'il est plus facile de s'attaquer en provoquant et en disant finalement votre problème c'est que vous êtes puritaine plutôt que d'essayer de produire une argumentation politique. Par contre, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est la question de à qui, en fait, accordons-nous notre crédit. Et sur bon, le texte de Quadro Panique qui est d'une violence inouïe, quoi, mais la question, effectivement, qui peut être soulevée à partir de ce texte, c'est finalement, quelle parole écoute-t-on ? Qui pose les mots de violence et quand est-ce qu'on les pose ? C'est-à-dire que les pédophiles politiques vont dénier qu'il y aurait un élément de violence. Ils vont dire pas du tout, en fait, les enfants consentent, les enfants en fait, se réjouissent même de nos interactions, ils apprécient ça, etc. Et finalement, les personnes qui vont poser le terme de violence, c'est des institutions qui cherchent à réprimer nos pratiques. Avec notamment l'utilisation de termes très euphémisants comme touche-pipi. Enfin, c'est vraiment un terme qui revient tout le temps de la part de personnes qui veulent en fait, décrire des scènes d'agression sexuelle, bon, plus spécifiquement entre enfants, en disant voilà, c'est un jeu innocent, c'est un jeu anodin, etc. Et c'est des personnes qui poseraient sûrement pas, enfin, j'espère pas, ce terme pour des adultes. Donc, comme si finalement, quand ça se passait entre enfants, il y avait un caractère de jeu qui empêchait le développement de toute violence. Mais c'est effectivement une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que à quel moment pose-t-on les mots de violence ? C'est-à-dire qu'un enfant, est-ce qu'il a les outils au moment où l'agression se produit pour poser de toute façon, la violence ? C'est-à-dire que, est-ce que en fait, l'éducation qu'on donne à l'enfant, qui est quand même une éducation, on peut le rappeler, où la dimension de sexualité est souvent passée sous silence, où en fait on explique peu aux enfants de qui ils pourraient être victimes, comment ils pourraient s'en protéger, on apprend peu aux enfants ce que c'est que consentir et ce que c'est que non consentir, par exemple, à des bisous forcés, etc. Donc du coup, l'enfant n'est pas forcément en mesure de se présenter comme victime, ou en tout cas, ça va être un régime de parole qui est un peu différent, mais les personnes qui vont potentiellement le faire, ce sera les enfants devenus adultes, qui sont passés par une trajectoire, en fait, en général, et de politisation, et potentiellement une trajectoire associative, etc. Mais on en revient quand même à cette question de... qui a les outils pour nommer quoi, en fait, finalement ? Qui détient le pouvoir pour désigner certaines situations et, en fait, comment on va se retrouver face à des conflits d'interprétation, puisque certaines situations ne vont pas être nommées comme de la violence, alors que d'autres acteurs politiques vont avoir tendance à considérer qu'elles le sont. Et vis-à-vis notamment de cette question de viol sur enfants, beaucoup de personnes vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de traumatisme. N'étant pas psychologue, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi dans le cadre de ma thèse, mais c'est une question contre laquelle je bute. Je lisais dans un ouvrage collectif de Dorothée Ducy sur l'inceste, Bilan des savoirs, un article qui essayait de poser cette question en disant le plus souvent, ce qui va être dit, c'est que peut-être que le traumatisme vient pour l'enfant du fait qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, une incursion d'un corps étranger, mais finalement, l'enfant ne comprend pas ce qui se passe. Et la personne qui rédige l'article dit, en fait, non, finalement, on n'est pas traumatisé de ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que si quelque chose se passe et qu'on ne comprend pas, ce n'est pas ça qui va constituer le traumatisme. Mais c'est plutôt le fait que, justement, il y a compréhension très forte de la part de l'enfant de la violence de l'acte. Et moi, en fait, c'est aussi... la manière que j'ai de lire les choses, c'est-à-dire que pourquoi il y a traumatisme ? Parce qu'en fait, l'adulte qui pratique ces violences sait très bien en fait, que ces violences sont interdites, risquent de le mener en prison, etc. Et sait très bien aussi que l'enfant ne va pas d'emblée consentir à cette sexualité, puisqu'en fait, déjà l'enfant ne sait pas de quoi il s'agit, et donc il va y avoir tout un jeu de manipulation. de menaces. Enfin, en fait, les personnes qui décrivent qui se produit dans les relations, notamment d'inceste, l'expliquent très bien. Enfin, c'est ce que fait Dorothée Ducy dans son livre, c'est-à-dire mettre en exergue toutes ces séries d'actes qui vont avoir pour but de silencier l'enfant. Et donc, du coup, pour moi, la question du traumatisme, elle se joue là. Elle se joue justement sur ce rapport de pouvoir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on oblige une personne à consentir à un acte d'une manière qui n'inclut pas forcément de la violence physique, mais qui passe par de la manipulation, quoi.
Et les auteurs de violences pédophiles comptent sur le fait que les enfants vont avoir du mal eux-mêmes à formuler leur traumatisme, qui fait que beaucoup d'enfants ne vont en parler qu'à l'âge adulte, voire bien plus tard. Et je pense que ce qui rend pas non plus facile à cette époque la dénonciation des violences sexuelles sur mineurs, c'est aussi le vocabulaire de la société bourgeoise elle-même, qui a une appréhension non pas politique, mais morale des violences sexuelles sur mineurs, puisqu'on parle d'attentat à la pudeur et d'incitation à la débauche de mineurs. Et donc, évidemment, avec des concepts comme ça, eh bien, évidemment, on ne parle pas de la violence politique des rapports sexuels entre adultes et enfants. Et puis, d'autre part, ça a permis cette codification morale et non pas politique des violences sexuelles sur enfants par des adultes. Ça a permis, par exemple, à quelqu'un comme Hockenheim de dire « Non, mais la question du viol, c'est une question complètement différente de ce qu'on appelle attentat à la pudeur et incitation de mineurs à la débauche. » C'est-à-dire que Hockenheim accepte quand même l'idée que le viol, c'est quand même une question politique, mais on a presque l'impression que pour lui, il ne peut pas y avoir de viol d'enfant, sauf s'il y a des violences physiques. Or, on sait que la vulnérabilité psychologique des enfants étant bien plus forte que celle des femmes, sachant qu'il y a une partie des femmes qui sont violées sans forcément de recours à la violence physique, bon, même si c'est une violence physique en soi, mais sans coups et blessures, disons, eh bien, il y a d'autant plus de chances que les violences sexuelles sur enfants se passent sans forcément recours à une contrainte physique.
Oui, il y a tout un enjeu, effectivement, autour de la dénomination, des actes. Et c'est, en fait, des débats qui sont aussi présents dans le champ historique actuel, notamment autour de deux centres. Le premier centre qui serait plutôt autour des travaux d'Ariès sur l'invention de l'enfance, c'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'on peut considérer que l'enfance a été un concept qui a été opérant avant l'Ancien Régime, et secondement autour de la question du traumatisme ou de la violence. Et donc, il y a un historien qui s'appelle Gérard Noiriel qui, dans un article sur la maltraitance des enfants, va reprendre notamment l'ouvrage de Yana King sur les troubles de la personnalité multiple, donc qui est des troubles qui ont souvent été considérés comme résultant d'abus sur enfants, et qui va poser la question du constructivisme, c'est-à-dire dans quelle mesure, en fait, l'invention de certains troubles va pas complètement modifier la manière dont on va percevoir certaines violences et leurs conséquences. Et moi, il me semble qu'il y a un débat un peu dangereux, notamment auquel se livrent un certain nombre d'historiens actuellement, sur une forme de faux constructivisme, qui serait de dire, finalement, la maltraitance sur enfant, c'est un concept contemporain, l'idée de traumatisme, c'est contemporain, d'ailleurs, l'enfance n'existait pas comme tel. Il me semble que ce débat, il est assez vain. C'est-à-dire qu'on peut penser que même si la domination de l'enfance est récente, qu'elle prenait des formes différentes auparavant, il y avait quand même des rapports de pouvoir structurants et que, des actes de violence allaient avoir un certain nombre de conséquences, même si elles n'étaient pas exactement nommées pareilles. Et du coup, moi, je trouve ça assez inquiétant parfois de voir certains débats qui réduisent, comme si le sentiment du traumatisme était lié à l'invention d'un mot, quoi. Qu'avant, finalement, quand ce mot n'existait pas, personne ne souffrait, quoi.
Oui, c'est un peu une espèce de cas extrême du nominalisme, c'est-à-dire que finalement, l'antisémitisme n'existant comme mot qu'à partir de ce moment-là, avant, il ne peut pas exister comme réalité, alors que si on a une conception matérialiste des choses, on peut dire pour sûr que la domination adulte est au moins vieille de plusieurs millénaires, probablement comme la domination patriarcale plus généralement, et que une forme de relativisme est assez malvenue, parce que effectivement, il y a, comme pour les rapports de genre, une définition de ce que c'est que la masculinité et la féminité selon les différentes sociétés historiques. Oui, il y a des différences entre ces définitions, mais pour autant, il y a une permanence du rapport de domination patriarcale, même s'il peut se modifier légèrement, même si ces termes peuvent se modifier. Il y a quand même voilà, là-dessus une continuité malgré les discontinuités.
Non, ce qui me semble problématique dans l'adoption de schèmes constructivistes qui, à mon avis, sont utilisés de manière assez faible, c'est qu'en fait, on en vient à considérer que la maltraitance sur enfants serait finalement une dérive contemporaine, en tout cas le fait de l'apercevoir partout, et que finalement, elle était très peu présente avant. Donc, je peux citer par exemple l'ouvrage de Laurence Gavarini et de Françoise Petitot qui s'appelle La fabrique de l'enfant maltraité, s'inscrit dans ce courant-là, quoi. Et en fait, effectivement, c'est ce qu'on disait, si on adopte une perspective matérialiste, on est tout à fait à même d'analyser des rapports de pouvoir de manière finalement claire et efficace, quoi.
Oui, et d'ailleurs, sur la question de la visibilisation de ces rapports de pouvoir, on pourrait simplement terminer en rappelant que si, dans les années 70, il y a eu une visibilisation uniquement des violences sexuelles à l'intérieur de la famille au détriment d'une visibilisation des violences pédophiles, à l'inverse, aujourd'hui, on a, depuis les années 80 à peu près, une visibilisation principalement de la question de la pédophilie au détriment parfois d'une visibilisation des violences sexuelles intrafamiliales, probablement puisque on est passé dans une nouvelle époque. Je pense que un des enseignements importants de ton approche, c'est que il faut penser l'inceste et la pédophilie ensemble comme des manifestations de la domination adulte, et donc comme le produit de rapports de domination politique et pas comme des problèmes moraux qu'il faut traiter sous l'angle du fait divers.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une forme d'inversion, c'est-à-dire que maintenant, la figure typique à laquelle on pense quand on parle de pédophilie, c'est la figure pédophile en imperméable, nu, dessous et avec des bonbons à la main. Mais par contre, j'ai vu pas mal passer dans certains articles de presse, l'idée que finalement ça serait dommageable qu'on s'acharne comme ça contre Matzneff, puisque finalement Matzneff ne serait tout d'abord que le reflet d'une époque, et puis en plus que les violences sur enfants seraient en fait en majorité des violences qui s'exerceraient dans la sphère de la famille et des proches. Et en fait, je pense effectivement qu'on peut tenir les deux, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait un acharnement sur Matzneff, et je pense que c'est très bien en fait que cette histoire, enfin ces affaires en fait de pédophilie politique soit enfin perçu et analysé, et qu'en fait les paroles des victimes émergent enfin, puisque c'est peu le cas. Enfin, moi je suis frappée quand je travaille sur mon sujet des très très faibles témoignages qui existent de la part de victimes. Et par contre, effectivement, je pense que c'est important de poser la question de la domination adulte en faisant tenir ensemble toutes les dimensions du problème.
Oui, je pense que c'est une bonne manière de conclure. Donc, pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient approfondir ces questions, donc on les invite à lire notamment l'ouvrage de Pierre Verdrager sur l'histoire de la pédophilie, qui s'intitule « L'enfant interdit ». On peut également lire l'article de Jean Bérard de « La libération des enfants à la violence des pédophiles, la sexualité des mineurs dans les discours politiques des années 1970 », qui est assez pertinent, et puis on les invite également à réécouter les trois émissions qu'on a mentionnées, donc deux sur la question de la domination sexuelle masculine et de la culture du viol, et puis surtout voilà, l'émission qu'on avait déjà faite avec toi sur la domination adulte. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. Patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie.